Blue Jays, ouais, qui semble être encore parmi les équipes finalistes pour l'attention d'un joueur de sa trempe. Mm-hmm. Mais écoute, ça va coûter cher, ça, là.
Ça va coûter cher. Et écoute, dans les gros lanceurs partants, il en reste deux. C'est pas compliqué. Il y a Burns. Et l'autre, j'y vais avec Sasaki.
En jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à ce compte complet de la mi-décembre. Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. Marc, on va commencer par les transactions. Ça a été la réunion de ce qu'on appelait, peut-être qu'on peut appeler encore, les assises annuelles du baseball majeur qui se déroulent au début du mois de décembre. C'est un endroit, Marc, où il y a plusieurs... on se réunit au même endroit, ce qui fait en sorte que, que ce soit des joueurs, des agents, ou encore même des joueurs des gens de deuxième étage qui sont là pour se chercher un job. Mais c'est pas pour ça qu'on parle. C'est la plus grosse réunion, probablement, des gens de baseball au cours de l'année. On va s'attarder en première partie de balado sur les transactions qui ont été effectuées. Il y en a eu plusieurs impliquant des joueurs importants. Je vais commencer par Andrés Giménez avec les Blue Jays de Toronto. Moi, je trouve que c'est un excellent coup. J'espère qu'il va demeurer au deuxième. Honnêtement, quand on regarde sa production défensive, on va parler de défense, c'est un des meilleurs joueurs en défense, toutes positions confondues. Donc, de ce côté-là, ça va être excellent. Si on est capable de le ramener offensivement ce qu'il y était il y a 2 ans, ça va être un boni.
Ça me fait penser un peu à Dalton Varsho. C'est-à-dire, excellent joueur en défense. D'ailleurs, Varsho qui a remporté enfin un gant d'or. Mais son coup de bâton a beaucoup de potentiel, mais on attend des résultats peut-être un peu plus de façon constante dans le cas de Varsho. C'est la même chose pour Giménez. J'aime ces joueurs-là, le style très athlétique, tu es capable de faire bien des choses, tu l'as dit en défense, il est le meilleur joueur de deuxième but défensif, est-ce qu'on va le faire jouer à l'arrêt court éventuellement, on verra les plans pour Bo Bichette, mais c'est une bonne acquisition à ce niveau-là. J'ai toujours pensé, Alain, on a regardé les Dodgers jusqu'en série mondiale cette année, j'ai toujours pensé qu'une équipe très athlétique qui peut bouger, faire des choses sur les sentiers, le jeu défensif, évidemment. Tu regardes le personnel de lanceurs des Blue Jays, ça te prend des gars qui attrapent la balle. T'sais, si on attrape la balle derrière, on joue bien en défense, ça va aider la cause de ces lanceurs-là. Alors, Giménez vient vraiment donner une stabilité à cette position-là, Alain, qu'il n'y en a pas eu depuis une couple d'années avec les Blue Jays de Toronto. Ouais. On a donné le poste à Biggio pendant une couple d'années, puis il n'est pas capable de prendre ça. Puis là, Merrifield est arrivé, puis... On a beaucoup jonglé avec cette position genre le deuxième but. Là, on vient la stabiliser. Puis, je parlerai pas de son contrat. Moi, ça a été ma première réaction. C'est que, ça va coûter cher si jamais il frappe pas tant dans les prochaines années. Mais il y a au moins une stabilité maintenant de ce côté-là. Ça, je trouve ça intéressant.
Mais son contrat, il est pas si mal, Marc, quand tu regardes le marché. Je regarde 7 ans. Au total, évidemment, c'est pas le même montant chaque année, c'est gradué, mais c'est quand même pas si mal. C'est un contrat qui s'endure très, très bien du côté des Blue Jays de Toronto. Au total, là, quand on l'a signé, c'était 106 millions pour 7 ans. C'est quand même... Évidemment, je ne le compare pas à Soto, là. Mais je trouve que dans le contexte, c'est quand même pas si mal.
Non, puis c'est pour ça que j'en fais pas de cas non plus, là. C'est correct. Les Blue Jays sont quand même parmi les équipes qui ont une masse salariale élevée. Là. Même s'il y a des trous encore à combler à ce niveau-là, même si Vlad n'est pas encore signé à long terme, mais ça reste que je trouve que c'est un pas dans la bonne direction. Mais maintenant, il faut que les instructeurs de frappeurs chez les Blue Jays de Toronto, je sais qu'on a fait des changements, on a ramené un gars des Twins puis tout ça, mais il faut vraiment être en mesure de donner à Varsho et à Giménez des éléments, en tout cas on l'espère, là, d'aller chercher un certain rendement. Je ne dis pas de frapper 300 puis avoir un PP à 900, là, c'est pas ça que je dis. Mais d'avoir quelque chose de plus constant en saison, ça pourrait grandement aider la cause de l'équipe. Là.
Bon, Marc, on va parler des autres transactions. Je pense que le plus gros nom, c'est Kyle Tucker, devient joueur autonome à la fin de l'année. S'en va avec les Cubs de Chicago. Il y a plusieurs choses là-dedans. Tucker, Marc, les Astros doivent faire des choix. Alvarez va devenir joueur autonome dans pas grand temps. Framber Valdez va devenir joueur autonome dans pas grand temps. Tucker, c'était le cas aussi. Il fallait faire des choix. Puis de ce côté, on a quand même acquis. Bon, Paredes, est-ce que je pense qu'on peut le dire, là, ça sonne le glas pour Alex Bregman. Et Wesneski, qui a quand même un bon potentiel. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Bregman. Marc, semble que ce soit fini.
Ben, écoute, il y a plusieurs éléments à ta question. Moi, dans le cas de Kyle Tucker, je pensais vraiment que les Yankees étaient l'équipe qui allait aller le chercher. À toute évidence, on ne voulait peut-être pas payer aussi cher. Une chose est sûre, Alain, c'est que le contrat de Juan Soto amène une dimension différente, parce que je ne dis pas que Tucker va faire l'argent de Soto, mais tu regardes le rendement de Tucker avant sa blessure, c'est un gars qui était juste derrière je pense qu'il était le quatrième meilleur frappeur là, tout le baseball, si on regarde évidemment un rendement des statistiques avancées, donc il devient inévitablement le meilleur frappeur des Cubs, là. C'est clair là à ce niveau-là. Mais il devient joueur autonome dans un an, donc je pense que c'était le temps pour les Astros de l'échanger. Je l'aurais bien vu dans l'uniforme des Yankees, soit dit en passant, mais je trouve ça bien le fun du côté des Cubs de Chicago. Effectivement, dans le cas de Bregman, moi, je pensais vraiment que Bregman allait retourner avec les Astros. ça semble pas aller dans cette direction-là, compte tenu de la transaction là, de tout ça, mais...
Ouais.
En fait, le point intéressant que tu as souligné, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il faut faire des choix. On veut gagner chez les Astros, mais on veut pas payer 5 gars à 30 millions, 40 millions par année. Là. Donc, les choix, Alvarez, de toute évidence, fait partie des priorités éventuelles. On a déjà le trouvé à long terme. C'est évident qu'il y avait des choix à faire là, du côté des Astros.
Oui, et du côté, bon, on parle des Yankees, Tucker, sauf que ça aurait pas réglé le problème du champ centre et des Cubs ont un voltigeur en trop. Là, Marc, c'est pas difficile de faire le lien. Là. Les Cubs ont le gars que les Yankees ont besoin. Je veux dire, c'est pas compliqué. Là. On a besoin d'un champ centre. Sur le marché des joueurs autonomes, il n'y en a pas qui peuvent remplir ce mandat-là avec un coup de bâton adéquat. Bellinger, c'est le gars parfait pour les Yankees de New York. Je serais surpris que ça arrive pas.
Moi, je suis surpris que c'est pas arrivé encore, mais on a l'impression que plus on lit là-dessus, on se renseigne là-dessus, tu as l'impression qu'on n'est pas si proche que ça. D'une entente. Alors, on peut être surpris, évidemment, là, mais je suis d'accord avec toi parce qu'il peut aussi jouer au premier but, hein, comme on le sait. Moi, je pensais vraiment, Alain, qu'on allait chercher que Bellinger pouvait aller jouer au premier but parce que, selon moi, ça pourrait être un gant d'or au premier but s'il jouait là de tous les jours. Mais je pense qu'effectivement, il faut enlever Aaron Judge du champ centre. Ça, je pense que c'est assez clair. Là. Judge est un bon voltigeur, un bon voltigeur de droite ou de coin, mais ce n'est pas un voltigeur de centre naturel. Alors, il y a des trous encore à combler là, du côté des Yankees de New York. Mais j'ai pas haï ce qu'on a fait, par exemple, jusqu'ici. Je veux dire une chose, la perte de Soto peut être lourde si tu regardes tout le rendement offensif, mais on a quand même comblé déjà des points importants. Regarde, écoute, tu te retrouves avec Max Reed, puis Devin Williams, on a une très bonne équipe déjà, là.
On savait qu'il y avait un partant qui était pour partir. Est-ce que toi, tu es surpris que ce soit Cortez? Certains auraient pensé que ça aurait été Clark Schmidt. Schmidt est plus jeune, donc est-ce que c'est ça qui a penché dans la balance? J'imagine que oui, là.
Ben, écoute, moi, je ne suis pas surpris que ce soit Nestor Cortez. Ironiquement, deux gars qui ont été... impliqués, rappelle-toi, ils ont donné des circuits qui ont coûté cher à leur équipe respective en série, autant Williams que Nestor Cortez. Là. Mais c'est correct. Moi, je pense que Cortez avait donné ce qu'il avait à donner aux Yankees de New York, qui maintenant peut aller évidemment faire ce qu'il est capable de faire ailleurs. Mais ça reste que j'aime ce que je vois là du côté des Yankees avec le monticule, certes, mais là, ça va prendre évidemment ça va prendre un petit peu de punch en attaque. Mais il y a encore des gros noms, Alain, hein? On parle beaucoup de transactions, mais on va continuer avec Garrett Crochet, tout ça, mais il y a quand même encore plusieurs noms intéressants qui sont sur le marché. Fait que ça risque de bouger encore là, dans les prochaines semaines à ce niveau-là. Là.
Bon, parlons de crochet. Après ma barre, les Red Sox n'ont pas donné tant que ça. C'est pas vrai, là. On a donné les deux derniers choix de première ronde chez les Red Sox de Boston, plus deux autres joueurs, dont un qui est un de leurs meilleurs prospects, Marc. On ne l'a pas donné chez les White Sox.
On a payé cher, mais tu sais, Crochet, le seul point d'interrogation, Alain, c'est bon, est-ce qu'il peut lancer une saison complète, oui ou non, là, à un moment donné. Mais Kyle Teal, là, plusieurs le voient dans le baseball majeur dès l'an prochain, là.
Ouais.
Receveur. D'ailleurs, c'est un fils d'un de mes anciens coéquipiers. Fils de Garrett Teal, un receveur dans lequel avec qui j'ai évolué dans l'organisation des Dodgers et un peu avec les Expos d'ailleurs, mais ça pour dire que c'est un receveur de premier plan, c'est pas un grand gabarit, mais c'est la nouvelle mouture de receveur, si vous voulez. C'est pas un gars qui a un grand physique, mais très bon coup de bâton. J'ai hâte de voir l'évolution de ces gars-là. Les White Sox ont fait une bonne transaction. Si t'as échangé un gars comme Crochet, va chercher des joueurs qui, dans un an ou deux maximum, vont être prêts. Là. C'est pas des prospects, Alain, il faut attendre 4-5 ans. Là. C'est des gars qui cognent à la porte. Moi, je trouve que les White Sox se sont garnis de quelques joueurs très intéressants pour la suite des choses.
Bon, Marc, je pense que oui. Écoute, quand Crochet est dans son élément, c'est pas compliqué, là, il est extrêmement coriace. C'est pas compliqué, là, il est peut-être même dans les top 5 dans le baseball majeur. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Deux autres transactions, Marc, dont je veux parler brièvement. Bon, Jeffrey Springs qui quitte Tampa Bay. Tampa Bay, il y a un paquet de releveurs qui vont revenir. Il y en avait peut-être de trop. Bon, on s'attend. Rasmussen est revenu l'année passée. Shane Baz est revenu. Baz, ça a très bien été. Bradley a montré de belles choses. McClanahan devrait lancer. On a Zach Littell. Bref, il y en avait trop. Puis en plus, non seulement on a donné Jeff Springs, qui était, écoute, un des très, très bons lanceurs avant qu'il se blesse. C'est quand ça va acquérir. Moi, je l'ai vu lancer Joe Boyle. Je m'excuse, Marc, je ne suis pas sûr qu'on est perdant dans cette transaction-là chez les Rays. Vous allez me dire « encore », mais je ne suis pas sûr qu'on n'en a pas passé une petite vite, moi, aux A's.
Ben, encore. Une chose est sûre, Alain, c'est que je trouve ça intéressant de voir une transaction entre les A's et les Rays, deux équipes qui vont jouer dans des stades 3. Là. Mais tu as raison. Ça reste quand même que, bon, Jeffrey Springs est un peu plus établi. C'est peut-être ça qu'on va aller chercher, un petit peu plus de... Bon. Mais moi, je trouve ça toujours dangereux d'échanger un lanceur aux Rays. Effectivement, j'aurais toujours cette crainte que ce gars-là devienne... Ouais. Bon, tu sais, le prochain lanceur qui va surprendre le monde du baseball. Mais ça reste intéressant. En fait, j'ai eu la même réaction que toi, Alain, mais c'est de voir les A's bouger. C'est ça qui me surprend le plus. Puis... On l'avait mentionné, hein, puis je trouve ça encore très triste pour les partisans de Oakland. C'est là, on s'en va évidemment à Sacramento et là, ben, on dépense pour Severino, on va chercher Springs. Probablement que c'est pas terminé, mais en tout cas, toujours est-il que c'est quand même le fun de voir les A's bouger et tenter de s'améliorer et non pas là l'inverse, là, c'est de liquider tout ce qu'on a là.
Écoute, est-ce que les A's voient une ouverture dans l'Ouest, Marc? Les Rangers vieillissent. Les Astros sont en... Je dis pas qu'ils liquident, mais c'est pas la puissance que c'était il y a 6-7 ans. Les Angels, on verra quand la saison va commencer dans quelle direction on va se retrouver. Les Mariners, regarde, il y a des gars qui pourraient être disponibles là, chez les Mariners, puis on est encore vulnérable à l'attaque. Penses-tu que ça peut être un des aspects sur lesquels on s'est attendu? On s'est dit, regarde, dans notre section, là, c'est peut-être prenable si on fait quelques petits changements.
On n'a pas une mauvaise équipe, Alain. Hein? Tu regardes, il y a des éléments pour faire. Écoute, si tu es propriétaire d'une équipe, j'espère que ton objectif, c'est de tenter d'avoir la meilleure équipe possible, puis justement d'avoir cette possibilité de faire les séries, surtout dans le baseball moderne où il y a plus d'équipes en séries. En tout cas, j'espère que c'est l'attitude qu'on a maintenant pour se donner une chance. Mais effectivement, ça semble être une division qui s'ouvre un petit peu plus. Il y a des choses qui peuvent se produire, des surprises, certes, qui peuvent être causées dans la division Ouest.
Oui. Ben écoute, Marc, je voulais te parler d'une autre transaction. Ben, vite, là, c'est juste Burger. C'est peut-être le frappeur de 30 circuits dont on a parlé le moins pendant tous ces échanges. Je veux dire, il se trouve avec Texas. Moi, ce qui m'a fait rire un peu, c'est la direction. Oui, évidemment, il peut jouer un peu au troisième, un peu au premier, frappeur de choix.
Il va frapper. Ça va être le frappeur de choix régulier, Marc. Je veux dire, tu frappes 30 circuits par année. Ce gars-là, sa meilleure position défensive, je m'excuse, c'est frappeur désigné.
Mais écoute, je ne t'obstinerai pas là-dessus, Alain. On s'en est parlé souvent. Et oui, surtout, tu sais, on a Young au troisième. On a des joueurs. Ben oui. On a, au niveau des lanceurs, on est un peu plus vieillissant là, du côté des Rangers, mais il y a des joueurs de position où on a une jeune équipe. Qu'est-ce que ça va donner, on verra, mais effectivement, Alain, c'est vraiment. Ton rôle va être de frapper simplement dans le cas de Burger. Mais écoute, c'est quand même le fun de voir autant de mouvements de personnel, Alain, autant via transaction que, tu sais, on a parlé des Red Sox rapidement, mais je trouve ça le fun de voir les Red Sox tenter de revenir là avec des acquisitions de la sorte. Mm-hmm. Probablement que c'est pas fini là non plus. Il y a des gros noms là, tu sais, Pete Alonso va aller où? Il y a encore beaucoup de choses là, à voir. Au cours des prochaines semaines.
Exactement. Ça nous amène à la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Mais quelle serait la priorité pour les Blue Jays de Toronto, selon vous? On peut aller... est-ce que c'est un autre joueur d'avant-champ? Question de consolider notre centre. On a, Varshaw, on a Jiménez, on a une défense plus étanche, ça va peut-être aider. Est-ce que c'est un autre lanceur partant? Il y en a plusieurs qui sont disponibles encore. Il y a plusieurs bons releveurs de disponibles. Ça peut être aussi l'embauche à long terme pour Vladimir Guerrero. On vous invite à vous prononcer sur notre site internet comptecomplet.com, sur notre page Facebook également, facebook.com/comptecompletbalado.
Alain, c'est le temps maintenant de souligner notre partenaire principal, Plan de Match, cette boutique de baseball, magnifique boutique de baseball à Boucherville. Vous pouvez d'ailleurs aller aussi à la boutique en ligne si vous voulez vous entraîner cet hiver aussi, cours privés, cage de frappeurs, tout ça. Donc, Plan de Match, on les remercie d'ailleurs grandement tout au long de la saison de nous avoir supportés. Et d'ailleurs, pour savoir comment nous écouter, où nous écouter ou nous regarder, bien, allez sur notre site Internet, qui est le www.comptecomplet.com.
Oui, et moi, j'en profite, Marc, pour vous dire, si vous y allez, vous allez trouver de quoi vous divertir pendant un bon moment. Il y a plusieurs entretiens qui ont été réalisés au cours des derniers mois. Au cours de cette année, c'est pas fini encore. Cette semaine, il y a deux beaux entretiens qu'on vous propose. Éric Serrantola, c'est un gars qui a grandi au Québec avant de déménager en Ontario, passé 10 premières années de sa vie à Laval. Et il fait partie de la liste des 40 joueurs des Royals de Kansas City, c'est-à-dire c'est un grand lanceur de puissance. Ses chances sont bonnes. C'est un releveur qui a impressionné au cours des deux dernières saisons particulièrement. Il y a plusieurs bons lanceurs, bons jeunes lanceurs du côté des Royals. Pour qu'on lui fasse une place, c'est parce qu'il a impressionné. Il a atteint le niveau 3A au cours de la dernière saison. Et également un entretien avec l'auteur Alain Bergeron, auteur d'un livre sur l'histoire de Canadiens d'origine japonaise qui se sont formés leur propre équipe dans la région de Vancouver. Les derniers des assaillis, c'est le titre de son livre, lancé au mois de mai dernier. C'est excellent comme livre, touchant par moments, et ça relate une histoire qui est peut-être méconnue, particulièrement ici au Québec, de cette équipe-là et des Japonais aussi. Qui ont été victimes d'une injustice criante au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous en dis pas plus, je vous invite simplement à lire ce livre écrit par Alain Bergeron. L'auteur est un de nos invités. Un entretien qui sera disponible cette semaine. Marc, on a parlé beaucoup des transactions qui ont été faites, mais beaucoup de joueurs sont encore disponibles. Qui pourrait faire l'affaire de certaines équipes? Bon, on a parlé des Yankees de New York, leurs besoins. À ce que je sache, ils ont toujours besoin d'un joueur d'avant-champ. Ce qu'on a su aussi, c'est qu'il y a certains joueurs qui pourraient s'ajouter au marché, sur le marché des transactions. Ces joueurs-là, ce sont, ce qu'on a entendu, particulièrement des lanceurs partants. Bon, on va y revenir tantôt. Chez les joueurs d'avant-champ, moi, je retiens toujours, j'ai dit au départ, les Blue Jays, leur cible aurait dû être Adames, ils n'ont pas réussi à l'avoir, il est allé à San Francisco. Ils ont quand même mis la main sur quelqu'un qui a un profil semblable. Moi, je pense honnêtement, pour le bien des Blue Jays, Dante Bichette ne devrait pas commencer la prochaine saison à l'Aréco, à tout le moins. Mets-le au troisième but s'il le faut, mais pas à l'Aréco, ça te prend un gant supérieur. Et moi, si tu n'as pas eu Adames, c'est correct, mais la prochaine cible serait Kim, à mes yeux.
Ben, écoute, je comprends d'où tu viens, Alain, avec ça. Par contre, là, tu viens d'aller chercher Jiménez au deuxième, qui pourrait probablement jouer à l'Aréco. Mais il faut que tu mettes Beau Bichette quelque part, puis je pense pas que moi la solution est au troisième, personnellement. Tu sais, effectivement, s'il y en a pas d'autres, puis que Kim s'en vient, puis là, tu mets Kim au deuxième, ça veut dire tu mets Kim à la réco, puis tu mets Ménez au deuxième? C'est ce que tu ferais?
Ben écoute, peut-être que j'offrirais même Bichette dans une transaction. C'est pas compliqué, là. C'est bon.
Fait que même si c'est fait couper les cheveux, Alain, tu crois pas au retour de Bichette, toi?
Il n'y a pas le profil pour jouer à l'arrêt court. Je pense que sa meilleure position, c'est au deuxième but. Puis là, tu as l'as des as au deuxième but. Il pourrait jouer à l'arrêt court. Moi, je le laisserais au deuxième but, puis j'essaierais d'aller chercher quelque chose d'autre à l'arrêt court. Puis là, je trouve que tu as quelqu'un qui pourrait t'aider, qui est disponible. En tout cas, moi, ce serait ça.
Je te lance un nom comme ça, Alain. Oui. Tu sais, un gars qui peut-être déçu un peu, qui a pas, mais qui a seulement... qui vient à peine d'avoir 30 ans, c'est Johan Moncada. Il peut jouer au troisième.
Ouais.
Est-ce que ça peut être le profil? Parce que je regarde le profil des troisièmes buts qui peuvent jouer aussi au deuxième ou ailleurs. Il y a Alex Bregman. Bregman est capable de jouer à l'avant-champ. C'est un joueur qui a grandi à l'arrêt court. On l'a mis au troisième parce que bon, il y avait un certain Carlos Correa là, dans l'organisation des Astros. Puis là, finalement, il est resté au troisième. Mais tu sais, je dis pas que Bregman va aller avec les Blue Jays, c'est pas ça que je vous dis. Mais regarde les possibilités qu'il y a. Si on quelqu'un qui signe Bregman, il y a possibilité que Bregman peut jouer ailleurs qu'au troisième. Tout comme Moncada d'ailleurs, hein, c'est pas un troisième but naturel, le gars qui est joué à l'avant-champ. Donc, c'est quand même des joueurs intéressants qui restent à ce niveau-là. Moi, je pense que les Blue Jays, avec la direction actuelle, vont pousser Bichette le plus loin possible. Moi, je serais très surpris que Bichette soit échangé. Remarque, si on a une offre qu'on peut pas refuser, mais moi, je pense que les plans, c'est que Bichette va jouer à l'arrêt court. Évidemment, Ménez va jouer au deuxième. Puis on va tenter d'aller trouver peut-être un coup de bâton de plus qui va jouer au troisième coussin. Là. La rumeur qu'on entend de plus en plus, mais qui est persistante du côté des Jays, c'est au Monticule et c'est Corbin Burnes, les Blue Jays qui semblent être encore parmi les équipes finalistes pour l'attention d'un joueur de sa trempe. Mais écoute, ça va coûter cher, ça, là.
Ça va coûter cher. Et écoute, dans les gros lanceurs partants, il en reste deux. C'est pas compliqué. Il y a Burnes et l'autre, j'y vais avec Sasaki. Moi, je pense que le marché de Sasaki va être très élevé compte tenu de son âge. Tu sais, il est plus jeune que Yamamoto. Ça a coûté quoi, 300 millions avoir Yamamoto? Je pense qu'on va être pas loin de là pour le lanceur japonais. Ouais. Donc, Corbin Burnes, écoute, il y a une feuille de route intéressante, c'est son âge. Est-ce que c'est une question d'année? Est-ce qu'on pourrait surpayer puis dire, regarde, on va te donner plus pour 5 ans, mais on n'ira pas plus loin? Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être là qu'on... Tu sais, Max Reed, c'est un peu plus. On lui a donné de l'argent. C'est un gars qui est plus athlétique aussi, il faut bien le mentionner là dans le cas d'ailleurs... Marc, la semaine passée, j'ai parlé de mon voyage en République dominicaine et quand on a mis sous contrat Max Reed, j'ai dit c'est peut-être le meilleur voltigeur de centre que les Yankees ont présentement. écoute, dans le cas de Burnes, je pense pas qu'il a cherché l'argent de Max Reed, compte tenu du fait que c'est ça, son côté athlétique n'est pas peut-être aussi élevé que Max Reed.
Écoute, c'est parce que là aussi, Alain, tu l'as dit, il y en a de moins en moins. Je regarde la liste, après Burnes, et là, je parle de joueurs établis, vétérans. Là. Je parle pas du jeune japonais, mais tu sais, t'as Jack Flaherty, ça a été plus dur en série, qui a quand même juste 29 ans. Mais après là, on tombe dans des vétérans. Tu sais, des Gibson, des Verlander, des Charlie Morton, des Clayton Kershaw. Bon, alors, c'est sûr que une fois que Corbin Burnes ne sera plus disponible, là, c'est sûr que là, ça va devenir... ça va devenir peut-être via transaction. Tu sais, t'as des Jose Quintana, c'est pas des mauvais choix, mais ça reste que c'est pas... la liste commence à être un peu plus courte à ce niveau-là.
Écoute, dans les lanceurs d'autonomie, là, ceux que je vois, Marc, qui ont connu les dernières saisons pas trop mal, Quintana, ça a bien été avec les Mets au cours de la dernière campagne, mais tu donnes pas un contrat de 5 ans à des gars comme ça. Toronto, Nick Pivetta, c'est un Canadien. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait compléter? Là, tu, évidemment, le focus est sur, faut bien le mentionner, là, sur Corbin Burnes. Si on met Corbin Burnes sur contrat, ben là, évidemment, va être appuyé par Bassett, va être appuyé par Berrios, va être appuyé par Gossman. J'imagine qu'on va laisser de la place à Rodriguez. L'année passée, c'était une année. Donc, est-ce qu'on attend là, ce qui va arriver avec Burns avant d'aller ailleurs là, du côté des Blue Jays de Toronto?
Ben, écoute,
ça ressemble à ça.
Tellement difficile à suivre. Là. Je veux dire, rappelle-toi, on a tout donné pour Otani, ça n'a pas marché. On ne sait pas vraiment virer de côté. Ça a été un peu le constat cette année. On était, semble-t-il, qu'on a tout mis les yeux dans le même panier pour Juan Soto. Là, on est allé via transaction. Écoute, c'est sûr que si on a réussi le coup de maître d'aller chercher Corbin Burns, ben là, soudainement, ça devient fort intéressant. Mais, tu sais, Alain, on en a parlé, là, ça va prendre un autre coup de bâton. Moi seul.
Bon, ben, c'est ça.
Moi, ça va prendre un autre receveur. Tu peux pas demander à un gars comme Kirk d'agir comme receveur pendant 140-145 parties, là. Ça se fait pas, là. Fait que, tu sais, t'as un trou à combler, là aussi. Fait que, là, on est déjà parmi les top 5, 6 au niveau de la masse salariale. En tout cas, il y a des décisions qui devront être prises à Toronto à ce niveau-là, mais j'ai hâte de voir un peu d'activité à ce niveau-là. Oui, une transaction déjà, mais on n'a pas une meilleure équipe que Baltimore, que les Yankees actuellement, et bon, les Red Sox avec Garrett Crochet, on verra ce que ça va donner, mais tu sais, il faut que tu commences l'année en te donnant de l'espoir que tu vas, tu sais, tu as une chance de terminer au premier rang de cette division-là.
Oui. Écoute, juste question de marché, Marc. J'ai l'impression que les noms qu'on a entendus disponibles sur le marché des transactions, là, ça fait en sorte que peut-être que ça va favoriser le marché pour les équipes. Tu sais, on a parlé, Castillo serait peut-être disponible, Framber Valdez serait disponible. Je suis pas sûr que les Blue Jays, ça leur tente d'aller sur le marché des transactions. Là. On a déjà échangé des joueurs là, pour Jiménez. Je pense qu'on aimerait mieux avoir gardé nos jeunes, aller sur le marché des joueurs autonomes. On a de l'argent, mais pour les autres équipes qui seraient intéressantes à un lancement partant, ça c'est là, les marchés sont plus là. Je veux dire, les Yankees ont acquis leurs joueurs. Est-ce que les Red Sox vont bouger encore? Ils ont acquis Crochet. Ça va peut-être s'arrêter là. Donc, j'ai l'impression que tout ça va peut-être favoriser le marché en faveur des Blue Jays de Toronto pour Burns.
Ben, écoute, on verra bien. Une chose certaine, t'as parlé de transactions. C'est sûr que les Jays n'ont pas un réseau garni. Là,
hein? C'est ça.
Ça va être plus difficile de faire des transactions. Ouais. Là, les Red Sox, tu l'as dit, se sont pas mal vidés avec la transaction de Garrett Crochet. Ce sont les Orioles de Baltimore, Alain, qui pourraient, eux, agir en tant que transaction. Si on a besoin, parce que là, bon, évidemment, si Burns s'en va avec les Blue Jays, ça va prendre un lanceur partant du côté des Orioles de Baltimore, là. Alors, eux, par contre, avec une filiale garnie, pourraient les voir aller s'attaquer, aller chercher un lanceur de premier plan, mais via transaction, parce que ils en ont des joueurs d'avenir, là.
Oui, puis tu parles de receveur, Marc. Le marché, il n'y en a plus. C'est pas compliqué. Là. Jansen, le retour de Jansen, c'était peut-être la meilleure option. Il est parti à Tampa Bay. Là aussi, on a filé la saison. C'était horrible le rendement des receveurs chez les Rays au cours de la dernière saison. Bon. Marc, il reste encore du temps. Je ne sais pas si la leçon de l'année passée va faire en sorte que d'ici la mi-janvier, ça va débouler tout ça. Parce que la liste est longue. Je ne te dis pas en qualité, mais en nombre, c'est très, très élevé. Tu as parlé. Je ne sais pas ce qui va se passer de ce côté-là. Moi, en tout cas, Burns, priorité, je suis d'accord avec toi. Et Kim, moi, je pense, c'est les deux joueurs. Et si on parle de bâton, ben là, il y a quelques joueurs qui se détachent. Alonso, Christian Walker, Santander, évidemment, puis Teoscar Hernandez.
Bon, moi, je pense que Teoscar va retourner avec les Dodgers. Personnellement, c'est ce que je pense.
Ouais.
Santander, les Yankees ont les yeux dessus, évidemment. Ça va prendre quelqu'un qui va jouer. Je sais qu'on a besoin d'un champ-centre, Alain, mais à un moment donné, il n'y en a pas une tonne nécessairement de disponibles, autre si on va chercher Cody Bellinger, évidemment. Ça reste à voir. Mais moi, j'exclurais pas Moncada avec les Blue Jays de Toronto. C'est un gars qui pourrait avoir un profil intéressant. Je sais, il a pas joué beaucoup l'année passée. Ça vient avec des retraits sur des prises. Mais ça prend quelqu'un aussi qui va frapper derrière Vlad Guerrero. Ouais. À un moment donné, il faut penser à ça aussi. Il faut que quelqu'un protège Vlad un peu dans cette formation-là. Puis c'est ça. Il y a encore des trous à ce niveau-là, mais ça, c'est des noms, moi, je pense, qu'on pourrait entendre avec les Blue Jays. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, où j'ai l'impression, Alain, que ça va être très actif en janvier. Moi, je suis convaincu que la leçon de l'année passée est assez claire.
Ouais, hein.
Tu signes le Gothard, tu n'auras pas le rendement que pendant un mois et demi ou deux. C'est trop long, tu veux un rendement. Puis je pense même que Scott Boras lui-même, tu as vu là, les clients signent parmi les plus tôt. Là.
Ouais.
On a retiré une leçon. Là, on ne le dira jamais ouvertement, mais ça a été une erreur. Je parle peut-être pas une erreur financière, mais ça a été une erreur en termes de préparation et en termes de rendement, selon moi. Et je pense que ça va être un mois de janvier très actif qui va permettre à tout le monde, là, lorsqu'on va arriver pour les débuts de camp d'entraînement à la mi-février, là, que la plupart des joueurs vont être mis sous contrat, que les équipes veulent bien, mais on va se retrouver néanmoins, Alain, avec, tu l'as dit tantôt, là, il y a une longue liste de joueurs. Moi, j'ai bien l'impression qu'il va y avoir des vétérans qui vont avoir des invitations, même pas de contrats, là, tu sais, des contrats assurés, si vous voulez. Ça va être des invitations à les camps d'entraînement. Puis si tu fais l'équipe, on va t'offrir un contrat. Il va y en avoir de plus en plus de ces cas-là.
Des gars qui étaient réguliers, des Brendan Rodgers, Marc, dont on a parlé, là, qui avaient des beaux chiffres, mais avec un rendement pitoyable sur la route. Tu sais, des chiffres gonflés par l'attitude de Denver. Puis, tu sais, il va y en avoir des joueurs à rabais. Puis, il y a des équipes, Marc, qui vont frapper le gros lot avec ces joueurs-là, je te le garantis. Puis, il y en a un nom que j'ai en tête, un ancien partant, c'est Jordan Montgomery. Marc, il ne sera pas de retour avec l'Arizona l'année prochaine. C'est impossible que ce gars-là soit de retour avec ce qui s'est passé depuis la fin de la saison. Là. En tout cas, je ne sais pas, Marc, comment c'est... Joueur, t'es propriétaire qui dit ça, puis je ne sais pas, mais... En tout cas,
ben, écoute, t'as deux façons, Alain. Soit tu dis, gars, je vais aller prouver qu'il y a tort et que je vais redevenir le lanceur, je suis capable, ou dire, ça va être dans un climat que je peux pas jouer, effectivement, on va.
Ben non, là.
Mais il est déjà sur le marché. Ça, c'est un joueur, un lanceur qui pourrait être très intriguant, effectivement, là, pour le marché des transactions.
Ouais. Compte tenu de ses succès en série mondiale il y a 2 ans à peine, donc il y a un peu plus d'un an en fait. Donc, ce sera très intéressant à suivre au cours des prochaines semaines. Ce qui nous amène à la carte de la semaine, une présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Marc, mois de décembre. Le 31 décembre 1974, Jim Catfish Hunter signait un contrat mirobolant avec les Yankees de New York. Les plus gros contrats, c'était 200 000 par année à ce moment-là. Lui vient de doubler et plus le salaire, plus haut salaire du baseball majeur en signant avec les Yankees de New York. C'est sa carte de 1975, la marque Hostus. Il ne faisait pas juste vendre des chips, il y avait des cartes aussi. Donc, écoute, c'était vraiment limité. 150 cartes au total, distribuées sous forme de panneaux de 3 cartes détachables sur des boîtes qui étaient spécialement marquées. C'est des gâteaux Hostus qui avaient ces cartes-là. Et juste une note sur Jim Catfish Hunter, Marc. Écoute, cette année-là, 25 victoires avec les Yankees de New York. C'était sa première saison avec les Yankees. Je ne sais pas si on l'a usé à la corde, mais c'était sa dernière grosse saison avec les Yankees. 30 matchs complets au cours de cette année-là avec les Yankees. D'être gagné la Série mondiale 3 fois de suite avec les A's d'Oakland. Mais il y a une chose que je veux préciser. On dit souvent que c'est le premier joueur autonome. Il y a un astérisque à marquer à côté. Il est devenu joueur autonome par une décision d'un arbitre administratif parce que le propriétaire des A's d'Oakland ne voulait pas payer une cotisation d'une assurance vie pour des raisons fiscales. Ça lui coûtait trop cher au propriétaire. Puis comme il n'a pas respecté le contrat de Catfish Hunter, ben l'arbitre a dit, écoute, tu n'as pas respecté ton contrat, mais le contrat que tu as signé avec les A's, il est plus valide, donc tu deviens joueur autonome. Tu sais, c'est pas un joueur autonome selon les règles qu'on connaît aujourd'hui. Par la suite, il y a eu Andy Messersmith et Dave McNally. Ça, c'est à la suite d'une décision arbitrale, encore une fois. La première cuvée de joueurs autonomes, comme on les connaît, c'est au terme de la saison 76. Le premier qui a signé avec les Expos, c'est Dave Cash. Ça n'a pas été long. Le premier non officiel qui a signé un contrat, c'est Bill Campbell avec les Red Sox de Boston. Puis encore là, Marc, tu sais, bon, qui a signé? Il a signé quand? Tu sais, tu as la date de la signature, tu as la date de l'annonce de la signature, donc on ne sait pas trop c'est qui le premier, mais ce serait Bill Campbell. et certains d'ailleurs lui reprochaient d'avoir signé trop rapidement, mais il était tellement pressé de partir des Twins du Minnesota qu'il était pingre comme c'était pas possible. D'ailleurs, on a perdu je sais pas combien de joueurs au cours des deux années suivantes. Bill Campbell était super content de signer son contrat qui était plus d'un million avec les Red Sox de Boston. Et regarde, c'était payant pour lui. Il restait une grosse saison et après ça, il n'a plus jamais été le même. Campbell qui a lancé brièvement d'ailleurs avec les Expos de Montréal en fin de carrière en 1987. Je mets juste mettre le tout en perspective, Marc, dans le cas de Jim Catfish Hunter. Donc, et qui a gagné la Série mondiale par la suite avec les Yankees. C'est une quatrième pour lui qui est au temple de la renommée. Mais tu sais, il a été, oui, joueur autonome, mais par une étourderie de son propriétaire, Charles O. Finley. Et d'ailleurs, il n'en était pas une première, Marc. Je peux parler de joueur autonome? Il y avait, à la suite d'une dispute avec son joueur étoile, Ken Harrelson, à la fin des années 60, il a dit « Regarde, je ne veux plus rien savoir de toi. Joueur autonome. C'est un frappeur de 30 circuits dans la fleur de l'âge. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? » Ben oui, tout le monde s'est garoché sur lui. On n'était pas rendu encore avec les gros contrats de télévision, pas les mêmes montants d'argent, mais s'est retrouvé avec un contrat beaucoup plus élevé que ce à quoi il s'attendait. Lui était mort de rire. S'est retrouvé avec les 26 de Boston en série mondiale.
Ben, en tout cas, une chose est sûre, ce que tu mets en valeur, Alain, c'est qu'en 50 ans, ça a changé pas mal. Les salaires, la façon, l'autonomie, tout en fait, tu as parlé de contrats de télévision. On n'est même plus, tu sais, les contrats de télévision seront même plus pareils là, dans les prochaines années. Tout a changé tellement. L'important dans tout ça, puis là, je ne parlais pas du côté financier parce que là, on sait à quel point ça va exploser, là, mais c'est l'évolution des athlètes sur le terrain. Oui. Puis j'enlève rien à Catfish Hunter. Tu as parlé du fait qu'est-ce qu'on l'a peut-être brûlé, effectivement. Là, je pense je pense qu'on n'a pas réussi encore à trouver la bonne recette exacte, à savoir c'est quoi le nombre de manches, ou est-ce qu'on lance plus, on lance moins, est-ce qu'on devrait lancer. Quelle est la vraie technique pour permettre à un gars de rester en santé, surtout un lanceur. Là. Ça, c'est peut-être l'élément qui reste. Mais pour tout le reste, là, je regarde le côté athlétique, t'sais, autant qu'on cachait des gauches en gauche au premier but, c'est tellement plus le cas. Le baseball a beaucoup changé dans les sentiers. T'as parlé de 75, on arrive en 2025, c'est 50 ans la différence, puis il y en a une énorme différence.
Oui, ce qui n'a pas changé, Marc, c'est que le lanceur est toujours à 60 pieds 6 pouces et qu'il y a encore 90 pieds. Il faut que tu te rendes là avant que, sur un roulant, avant que le joueur d'avant-champ relaie la balle au premier but, les distances, dépendant des endroits, mais les distances demeurent foncièrement les mêmes.
La balle n'a pas changé tant que ça. Là, tu vas me dire qu'on l'a durci ou on l'a ramolli, mais la balle n'a pas changé tant que ça. C'est encore des bâtons de bois, même si on est allé avec l'érable maintenant. Bon, en tout cas, à un certain moment donné, il y avait l'érable pour que ça soit un peu plus dur. Ça reste... c'est un des sports où l'équipement... Tu regardes le bâton, le bâton de golf il y a 50 ans... Puis aujourd'hui, là, le driver, là, le bois numéro un, là, tu regardes les raquettes de tennis, j'enlève rien aux athlètes, là, mais tu sais, l'équipement de pointe a changé, là. Tu regardes les bâtons de hockey, tout ça. Mais au baseball, on est resté. L'équipement n'a pas évolué au point où ça a changé complètement la dynamique du sport. C'est qu'on a vraiment évolué la mécanique, la biomécanique, l'entraînement, il y a tout ça qui a fait que le baseball a évolué, c'est pas l'équipement qui a changé le fait qu'aujourd'hui, on frappe plus ou moins, ou peu importe. Là.
Je pense qu'il faut accepter, Marc, que tout évolue, puis ça inclut le baseball. C'est pas compliqué. Ouais. Dans une société qui n'est pas statique, tout évolue, notre façon de vivre, etc. Et ça se traduit aussi par des changements dans tout. Ça inclut le baseball. Il faut l'accepter. Et comme tu l'as dit, les athlètes sont meilleurs qu'ils n'ont jamais été. Et dans 30 ans, on va dire la même chose. Bon, ça complète notre balado. On va suivre l'actualité. Notre balado va suivre également l'actualité dans le baseball majeur. On est dans le temps des fêtes. On espère que vous allez en profiter de façon intelligente. Moi et Marc, on vous souhaite de bonnes fêtes et on se revoit très bientôt. À la prochaine.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville. Fier partenaire de votre passion.